Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais pour ce matin vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, où nous voulons lire les versets 1 à 8. Ésaïe 53, les versets 1 à 8. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, le jour le plus tragique est le plus sombre. Et j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le thème suivant, la descente de Jésus dans l'enfer ou dans l'abîme du péché. La réponse que je vous dois depuis dimanche passé, vous l'entendrez tout à la fin du message. Si vous pouvez écouter jusque-là, vous aurez votre réponse. La descente de Jésus dans l'abîme du péché. Ce matin, je vous emmène à travers le temps, plus de 2000 ans en arrière, au pays de l'Éternel. Car aujourd'hui, à Jérusalem, se joue l'histoire du monde dans une intensité dramatique infinie. On est vendredi. Et tout ce qui se passera en ce jour le plus sombre de l'humanité est frappé par le sceau de la tristesse, de la détresse et de la mort. En effet, de 6h le matin jusqu'à 6h le soir, l'ombre de la mort planera sur le déroulement de cette journée néfaste, tristement célèbre et mémorable entre toutes. C'est comme si tous les démons de l'enfer s'étaient donné rendez-vous à Golgotha pour fêter la victoire du prince des ténèbres sur la lumière, du maître de la mort sur la vie, de Satan sur Dieu le Père éternel. En fait, c'est bien ici l'enjeu du conflit qui existe depuis toujours entre le mal et le bien, entre l'amour et la haine, la justice et l'injustice, entre Satan et Dieu. Et celui qui, à la fin de la confrontation, remportera la victoire, celui-là régnera sur le monde. Ne pensez pas que je noircisse le tableau. Il est ténébreux par lui-même, car c'est le jour du diable, jour où tout est sombre, tout est funeste, tragique, fatal, voilé par l'obscurité du mal, empreint de la nature même de l'adversaire, qui par personne interposée veut se venger de Dieu. Dès le matin de ce jour, Jésus, trahi par l'un des siens, est trimballé d'un tribunal à un autre, où il est l'objet d'une parodie de jugement. Les faux détracteurs, soudoyés par les instances religieuses et judiciaires, ne suffiront pas à convaincre le jury de la culpabilité de Christ. Alors Jésus lui-même devra leur fournir un chef d'accusation valide qui leur permettra de le condamner, puisque selon eux, il a proféré un blasphème en affirmant qu'il est bel et bien le Fils de Dieu. L'ennemi invétéré de Dieu, voyant que son heure a sonné, est déterminé à accomplir sa sale besogne, dans tous les cas, de n'importe quelle manière, car pour lui la fin justifie les moyens. Même les moyens les plus honteux, les plus ignobles, les plus scandaleux, car il veut en finir avec ce Jésus. Ce Fils promis, celui qu'il a voulu empêcher de naître, celui qu'il essaye de détruire depuis 30 ans, et par lequel, selon la prédiction de Dieu dans le jardin d'Éden, sa tête sera écrasée, son pouvoir anéanti sur une croix. Mais il n'y pense pas. Comme aveuglé par son envie irrésistible de revanche, par sa folie meurtrière, sa furie dévastatrice, le serpent ancien poursuit son œuvre maléfique avec acharnement, poussé par une rage orgueilleuse, cruelle et sanguinaire. Il agit ainsi tellement son être tout entier, pendant ces siècles d'attente, impatiente, était envahi par la colère, sa pensée obsédée par cette idée, idée fixe, juger, condamner et exterminer Dieu afin de prendre sa place sur le trône souverain de l'univers. Comme si cela était possible. Et chose curieuse, les Juifs et les païens se sont ligués en cette occasion pour condamner le juste, le seul innocent parmi tous, car ils étaient les uns et les autres incités par le père du mensonge, le trompeur diabolique. Jésus donc, le Saint de Dieu, jugé comme un impie, condamné comme le pire des pécheurs, comme un voleur, un menteur, un blasphémateur, transgresseur notoire de la loi de Moïse, et encore, comme un délateur, un agitateur, un usurpateur, un agent subversif, cherchant à s'emparer du pouvoir de Rome par la ruse et la sédition. Alors que Pilate savait très bien que ce n'était que par jalousie que les Juifs voulaient la mort du juste, car ce n'est pas cet homme monté sur le petit d'une ânesse, sans armes, sans armée, qui pouvait conquérir l'Empire romain. Un peu de jugeote quand même. Il sera donc crucifié lâchement, injustement, par les autorités civiles et religieuses de son temps. En un mot commençant, c'est le jour où le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le plus juste, le plus grand, le meilleur des fils de l'homme qui ait jamais marché sur la terre, devient la proie de Satan. Le Messie promis, le Sauveur et Seigneur du monde, contrairement aux attentes de plusieurs, sera comme jeté en pâture dans la gueule du lion satanique, enragé et rugissant, affamé et assoiffé de sang. Et pour accomplir notre salut éternel, le Messie sera livré entre les mains du plus odieux des tyrans, pour être supplicié, crucifié, comme le plus pervers et le plus détestable des criminels. Ainsi, paradoxe étrange, le plus insolite de l'histoire, le Fils de l'homme, le seul, l'unique, juste et saint, bref, le Fils de Dieu lui-même est déconsidéré, dénigré, déclaré persona non grata parce qu'il serait devenu l'homme le plus vil, le plus mauvais, le plus monstrueux de la terre. Et à cause de cela, il sera suspendu entre ciel et terre parce que indigne du ciel et indigne de la terre. Alors, abandonné de tous, abandonné de Dieu, rempli d'angoisse, tourmenté par les douleurs les plus atroces, agonisant lentement mais sûrement, conscient de ce qu'il subit par amour pour nous, il acceptera son sort sans broncher. Et là, sur le calvaire, éprouvant les plus indicibles des souffrances liées à la mort et au péché qu'il expie, une solitude affreuse, effrayante, un désespoir cruel, intolérable, il rendra l'âme dans la nuit la plus effroyable qui soit, dans l'état le plus inhumain qui soit, horriblement défiguré dans son être intérieur à cause du péché qu'il porte en son corps, sur le bois infâme. Il achèvera sa course lamentablement. Et Satan, déjà, crie victoire. Mais cette fin tragique a été précédé d'un long parcours d'humiliation, de tribulation et d'affliction continuelle. On peut résumer toute la vie de l'homme de douleur, habitué à la souffrance, en une descente vertigineuse, en trois étapes, dans l'abîme de la mort et de la désolation et de l'enfer éternel. Première étape, la descente dans le monde du péché. La descente dans le monde du péché. De son ciel de gloire, de son trône royal, de la beauté et de la pureté de son royaume, de la splendeur de son règne, de la félicité de sa communion céleste avec son Père, Jésus est venu naître dans ce monde pécheur. Il a déposé sa couronne, s'est dépouillé de ses prérogatives divines pour revêtir la forme humaine dans le but de se soumettre en tant que serviteur de l'Éternel à toutes les contingences terrestres afin de refaire ce qu'Adam avait défait et de subir sa condamnation et la nôtre. Chers amis, personne ne pourra jamais concevoir, ni même imaginer dans une moindre mesure ce que cela a dû être pour le Fils de Dieu, du haut de sa gloire, de plonger dans l'abîme du péché, dans la sphère du mal, sur le terrain de Satan, par rapport auquel il n'a rien, non absolument rien de commun. Si vous imaginez une jeune princesse qui n'est jamais sortie de son palais, atterrir dans les bas-fonds des cités surpeuplées, dans les plus villes des bidonvilles, pour y vivre ne serait-ce qu'une semaine de sa vie, ce qu'elle ressentira, ce qu'elle endurera, n'est rien, mille fois rien, en comparaison de ce que Jésus a vu et vécu sur cette terre. D'ailleurs, comment pourrions-nous comprendre la douleur, la souffrance de Jésus, lui le juste et le saint de Dieu, l'homme parfait, sans péché, confronté au diable en personne, affronté chaque jour le mal dans toutes ses dimensions, voir le mal qui ravage l'humanité qu'il a créée, subir le mal que lui font les hommes mauvais et méchants qui n'en veulent qu'à sa vie. Nous sommes corrompus par le mal. Nous vivons dans cette atmosphère souillée par le mal. Nous sommes voués au mal. Nous pensons au mal. Nous faisons le mal. Nous subissons le mal. Nous sommes habitués au mal en quelque sorte. Mais lui, innocent de tout mal, sortant d'un environnement étranger au mal, jeté du jour au lendemain dans cet abîme de péché et de mort, cette descente aux portes de l'enfer a dû être pour lui quelque chose d'affreux, de monstrueux. Et pourtant, il est venu. Et pourtant, il est venu. Nous arrivons maintenant à la deuxième étape de cette descente vertigineuse. Deuxième étape, la descente dans la réalité du péché. Jésus, en descendant dans l'univers du péché, n'est pas resté caché dans sa tour d'ivoire, protégé par plusieurs légions d'anges, afin que personne ne le touche et ne le souille par son péché. Non. Jésus est descendu encore quelques niveaux. Pour se plonger au plus profond de la réalité du péché, il marchera sur cette terre corrompue pendant plus de 30 ans, vivra en compagnie des hommes pécheurs de toute espèce, il endurera de la part de certains d'entre eux les pires animosités. Tout au long de son ministère, afin d'être un sauveur compétent et compatissant, il sera tenté en toutes choses comme nous, comme Adam autrefois en Éden. Lui, c'est dans un désert aride, au milieu des bêtes sauvages, qu'il affrontera le Goliath Satan et triomphera de sa ruse maléfique. Il apprendra ensuite ce que c'est que de vivre dans la misère, dans la pauvreté, de n'être rien, de n'avoir rien, de dépendre des autres pour le vêtement, l'aliment, le logement. Car le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Mais il exercera sa dépendance envers Dieu. Il saura donc ce que c'est que d'avoir faim et d'avoir soif, d'avoir froid, d'être seul, sans famille, sans personne, voué à son sort particulier, difficile et pénible, par Dieu lui-même. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans sa confrontation avec les hommes mauvais et méchants, il découvrira ce que c'est que d'être mal aimé, mal compris, mal jugé, maltraité, rejeté, méprisé, pourchassé comme un lâche, sans cesse poursuivi comme un transgresseur de la loi de Dieu, de la pire espèce, méritant le pire des châtiments. Dans son obéissance exemplaire, absolument parfaite et complète, nécessaire pour nous imputer sa justice et sa sainteté, Jésus le Christ devra surmonter chaque tentation sans exception. Aimer à la perfection, croire sans douter un seul instant, lutter contre le péché en tout et partout, en menant le bon combat de la foi sans jamais faiblir, sans jamais faillir, en triomphant toujours conformément à la parole de Dieu. Enfin, dans sa communion avec Dieu, il devra être le modèle par excellence, mener une vie de prière incomparable, lire et étudier les Saintes Écritures d'une manière aboutie, rester confiant absolument, vivre dans la dépendance de son Père sans aucune velléité de murmure ni de rébellion. Son mot d'ordre sera d'obéir, encore obéir, toujours obéir, comme un esclave, comme le vrai serviteur de l'Éternel, jusqu'à la mort de la croix. Et cela, en acceptant toutes les épreuves, même les plus pénibles, toutes les souffrances, même les plus abominables, les persécutions sans fin, les humiliations douloureuses, les moqueries, les insultes, et que sais-je encore, bref, comme celui dont on ne fait, il n'est pas dit presque aucun cas, comme celui dont on ne fait, oui, aucun cas. Chers amis, chers frères et sœurs, en lisant les évangiles, de manière un peu superficielle, on pourrait dire que la vie de Jésus n'était pas, du moins en apparence, si catastrophique que ça. Je vous le concède volontiers. L'existence de l'homme Jésus est une existence semblable à celle du commun des mortels, avec tout ce que cela implique de travail, de responsabilité, de joie, de peine, de bonheur, de malheur, d'affection et d'amitié humaine, jusqu'à son terme. Mais justement, Comme nous l'avons déjà signalé, Jésus n'est pas comme nous. Il est sans péché, innocent de tout mal. Et si pour nous, être environné par le mal, voir le mal, subir le mal, surmonter le mal, soulager le mal, tout cela et plus encore nous fait déjà si mal, exige de nous tant d'efforts, même quand on le fait tant bien que mal, à cause de notre faiblesse humaine, de l'emprise du mal sur nous, qu'est-ce que cela doit être pour le Fils de Dieu, descendu tout droit du ciel, où le mal n'existe pas? Considérons les choses sous cet aspect. Chaque élément de mal, si petit soit-il, lui fait très mal. Chaque événement mauvais, si insignifiant soit-il, lui fait très mal. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Son cœur est trop bon pour subir le mal. Son âme sainte est durement éprouvée quand il traverse ce monde corrompu par le mal. Son esprit s'irrite devant la puissance du mal, devant l'arrogance impudente du dragon destructeur. Son cœur se brise devant tant de mal, de maladies, de souffrances, de douleurs, de malheurs, de misères, plus dures, plus meurtrières, les unes que les autres. Et devant la tombe de son ami, voyant Marthe et Marie effondrées, Jésus pleura. Dans sa compassion infinie, son visage se couvre de larmes quand il constate le désarroi des hommes voués au mal. Dans sa bonté, dans son amour incomparable, insondable, il voudrait, selon le pouvoir qui est le sien, mettre un terme immédiat à ce chaos infernal. Mais il ne le peut pas, il ne le veut pas, du moins pas encore, car son œuvre n'est pas encore finie. D'ailleurs, il n'est pas venu pour mettre fin au règne du diable, mais pour anéantir son pouvoir, en ôtant le péché du monde, c'est-à-dire en expiant le péché par sa mort sur la croix. En effet, depuis toujours, l'Éternel Dieu avait annoncé ce jour. Moïse, David et tous les prophètes en ont parlé, Ésaïe en particulier. C'est lui l'évangéliste de l'Ancienne Alliance qui nous fournira les instructions les plus complètes, les détails les plus importants, les plus saisissants, les plus touchants. Ésaïe annonce sa venue, nous décrit sa personnalité merveilleuse en mentionnant les noms glorieux qu'il porte, son ministère de serviteur de l'Éternel, absolument nécessaire pour le salut d'Israël et le salut des nations. Oui, Ésaïe, qui veut dire Dieu sauve, nous dépeint le Messie en des termes élogieux, que ce soit son origine divine, sa naissance miraculeuse, son service éminemment salutaire pour le monde, son obéissance parfaite, ses souffrances sans fin excessives, sa mort expiatoire dans des conditions misérables, épouvantables à l'extrême, à cause de notre péché. Mais Ésaïe nous révèle surtout l'aspect terrible de son ministère, son origine des plus modestes, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Son profil des plus minables, celui dont on détourne le visage, celui dont on ne fait aucun cas, car il n'a rien pour nous plaire, rien du tout pour attirer notre regard. Alors on se détourne de lui, comme un pestiféré. Son humiliation des plus honteuses, punie de Dieu, frappée par Dieu, car il a plu à l'Éternel, comme je le disais déjà, de briser son serviteur par la souffrance. De plus, abandonné de Dieu, traité comme un coupable, comme un maudit, méritant le bois infâme, sa mission des plus difficiles, accomplir la loi à la perfection, sans jamais broncher, satisfaire la justice de Dieu, en descendant dans les profondeurs les plus infernales de l'abîme du péché. Telle est la vocation périlleuse, impérieuse du serviteur de l'Éternel. Si nous pouvions comprendre ceci d'une manière absolue, nous serions tous à genoux en train de dire merci à Dieu de nous avoir épargné un tel châtiment. Et puis nous arrivons à notre troisième et dernier point, la descente de Jésus dans la mort du péché. Frères et sœurs, il faut le dire, même si c'est presque indécent, ce que Jésus a subi en descendant dans le monde du péché et dans la réalité du péché n'est rien en comparaison de ce qu'il va subir maintenant au cours des dernières heures de cette journée, la plus sombre, la plus ténébreuse qui a été donnée à l'humanité de vivre. Après le repas de Pâques, ou de la Pâque, dans le jardin de Gethsémané, le Fils de Dieu livre un dernier combat. Sa demande adressée au Père est légitime. Se pourrait-il, Père, mon Dieu, que la coupe amère que je dois boire jusqu'à la lire, à la lie, passe sans que je la boive? Mais dans sa soumission indéfectible, malgré l'angoisse infinie quant aux souffrances à venir, en dépit des tourments qui agitent son âme, il n'insiste pas, il ne tente pas Dieu. Il se plie librement, volontairement à la volonté de son Père, car c'est en vertu de cette volonté et par l'offrande de sa vie que nous serons sanctifiés une fois pour toutes. En acceptant ce service et ce sacrifice d'une valeur inestimable, incalculable, en descendant dans la mort la plus abominable qui soit, Jésus le Christ, le Saint de Dieu, remportera la victoire définitive sur le mal, opérera un triomphe éclatant et éternel sur l'ennemi de toujours. Qui peut comprendre un tel amour, si immense, si incommensurable? Alors, tôt le matin, encore entouré de ses disciples tout endormis, une foule nombreuse et la horde de soldats, ou la horde des soldats du temple, armés d'épées et de bâtons, arrive en force pour le saisir et l'emmener vers son destin cruel. Il sera trahi par Judas, livré entre les mains des impies, enlevé comme un assassin, jugé comme un criminel, doublement jugé par les siens et puis par les païens. Il supportera de multiples interrogatoires, plus injustes les uns que les autres, et endurera la question par le fouet. Ce n'est pas tout. Au cours de ces procès, plus ou moins improvisés entre les Juifs et les Romains, tout au long de ces jugements arbitraires, de pacotilles complotées par les Juifs, Jésus endure les plus indignes, les plus inhumaines, que dis-je, les plus révoltantes des exactions, des punitions. Son dos est labouré avec un fouet, fabriqué avec des lanières de cuir au bout desquelles on a mis des clous. On arrache sa barbe, on le frappe au visage, on crache sur sa face, on le bafoue, le ridiculise, on l'intronise comme roi des Juifs puisqu'il a dit qu'il l'était. On met sur ses épaules un manteau de pourpre, dans ses mains un roseau en guise de sceptre, et sur sa tête auguste et sainte une guirlande d'épines, cruellement enfoncée en guise de couronne. Tout en se moquant de lui, les soldats lui disent « Salut, roi des Juifs !» Quelle parodie de couronnement de malheur! Quelle horreur pour notre Dieu! Enfin, les Juifs et la foule ayant obtenu la libération de Barabbas hurlèrent au sujet de Jésus, comme on l'a entendu dans la prière, « Crucifie! Crucifie! Crucifie-le !» Quelle étrange situation! C'est le Seigneur, le Créateur qui est condamné par ses créatures. C'est le Roi des Rois qui est mené au pilori par ses sujets. C'est l'homme qui assassine son Dieu, son Sauveur, sous l'influence démoniaque de Satan, qui, lui, se frotte les mains. Ainsi, selon le plan de Dieu à son égard, Jésus, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, se laissera faire sans dire un mot. Il sera volontairement et consciemment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et selon les prophéties qui le concernent, il est considéré comme un ver et non comme un homme. Il supporte de la part des impies d'être la pâture des taureaux, la proie des chiens, la victime des scélérats. On perd ses mains et ses pieds en le clouant sur la croix. Cette croix, on l'adresse brutalement à sa place, en compagnie de deux malfaiteurs dangereux. Et tandis qu'il souffre et agonise sur ce bois maudit, de midi à 3 heures, des choses étonnantes se passent. Le monde se couvre de ténèbres. Jésus crie, le voile du temple est déchiré, la terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent, les morts ressuscitent, un brouhaha indescriptible s'ensuit. Les soldats vaquent à leur besogne, à leur basse besogne, les femmes pleurent devant le supplicié, la foule hurle à tort et à travers, les passants l'injurient, le Sanhédrin se moque de lui, les juifs, les pharisiens, les scribes et les anciens l'insultent. Et ils se réjouissent d'être enfin débarrassés de lui. Ah ! Les disciples, scandalisés, inquiets, timorés, se cachent. Pierre, honteux et confus, pleure amèrement. Dieu, il est où ? Dieu, lui, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. La longue nuit se poursuit. La colère de Dieu le frappe. La mort fait son œuvre dans son âme meurtrie. Son esprit troublé tombe en défaillance. Son cœur se fond comme de la cire, psaume 22, dans ses entrailles. La langue s'attache à son palais, sa force dessèche comme l'argile. Il est comme l'eau qui s'écoule, ses os se séparent. Il est réduit à la poussière de la mort. Il n'est plus. Dans son désarroi devant tant de haine, de violence, de moquerie, d'opprobre et de mépris, objet d'interminables sarcasmes, « Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu !» Et que sais-je encore ? Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Écrasé par le nombre d'ennemis qui en veulent à sa vie, accablé par la souffrance, ravagé par la douleur, anéanti par l'angoisse et le tourment, bouleversé dans son être tout entier, parce que puni et frappé de Dieu, il pousse un cri de détresse, de désespoir. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi ? M'as-tu abandonné ? » Que c'est dégradant, déshonorant pour le Fils de Dieu. Qui peut concevoir un tel amour ? Qui peut mesurer et évaluer un tel sacrifice ? Quel mystère merveilleux, quel amour infini, Dieu en Jésus-Christ. Dieu en Jésus-Christ descend dans l'enfer du péché pour sauver ses ennemis. Quel scandale, disent les Juifs. Quelle folie, disent les païens. Mais quelle grâce, disent tous les élus rachetés de Dieu. Pendant ce temps, qui devait sembler une éternité pour le crucifié de Golgotha, qui, en attendant anxieusement, douloureusement la fin, prononce ses dernières paroles, les paroles ultimes et solennelles d'un mourant. Mais la parole la plus importante, la plus précieuse que Jésus prononce encore, à bout de force, juste avant d'expirer, est ce cri de délivrance, « Tout est accompli !» Puis il expira. Cette fois, tout est fini. Notre salut est accompli. Vers le soir, Jésus sera enseveli, et les disciples, comme des enfants abandonnés, s'enfermeront à double tour dans une chambre haute pour pleurer la fin tragique de leur maître bien-aimé et pour se lamenter sur leur pauvre sort. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Vous m'accordez encore quelques minutes? Vous voulez entendre la réponse à votre question? Merci. Mais ce n'est encore pas tout. Il reste une question à élucider. La dernière. Que s'est-il passé sur la croix? Pendant les 3 heures d'agonie où Jésus souffrit la mort la plus infamante qui soit. Encore une fois, il faut le dire, la descente de Jésus dans le monde du péché et dans la réalité du péché n'était qu'une partie de sa mission. Maintenant, sur la croix, il doit achever l'œuvre qu'il a commencée et qu'il a promis à son Père d'accomplir. La mort physique, bien qu'elle soit des plus cruelles et des plus avilissantes, n'est pas le dernier acte de sa mission. Car cette mort n'est ni expiatoire, ni salvatrice, puisque les 2 brigands crucifiés avec Jésus l'ont aussi subie. Mais c'est la mort spirituelle qui a été l'apogée de son œuvre salutaire, dont nous sommes tous les bénéficiaires. Mais dans cette mort, qu'est-ce que Jésus a enduré? Frères et sœurs, nous entrons dans le mystère de la vie, le mystère de la vie avec un grand V. La mort que Jésus va souffrir maintenant nous apportera la vie éternelle, car il expérimentera la mort perpétuelle, qui est le châtiment que nous avions mérité et qui est tombé sur lui afin que nous ayons la vie. Cette mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est l'éloignement effectif et définitif, loin de Dieu, sans possibilité de retour. C'est l'abandon absolu du pécheur impie et impénitent dans la nuit du dehors, dans les ténèbres épaisses du péché et de la mort, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans ce lieu de tourment permanent où le ver du remords ronge indéfiniment, où le feu du jugement brûle continuellement, les hommes éprouvent un regret amer, dû au fait d'avoir su l'amour de Dieu, mais de n'y avoir pas répondu. C'est l'insupportable culpabilité qui ne disparaîtra plus jamais. Maintenant, c'est trop tard, éternellement trop tard. D'où la soif de repentir, de retour. Retour et repentir, impossible, car l'abîme qui sépare l'enfer du ciel et vice-versa est infranchissable, même pour Dieu. Et tous les cris, toutes les larmes, toutes les supplications, toutes les prières n'y pourront rien. C'est pourquoi l'étang de feu et de soufre est un lieu de mort, où la mort fait son œuvre en silence, en ce sens que l'existence dans l'enfer de la mort est une existence consciente, mais sans Dieu, c'est-à-dire sans les éléments qui autrefois sur la terre faisaient que la vie était viable, était vivable et viable, même pour ceux qui n'étaient pas de Dieu. Dans ce lieu donc, il n'y a pas de vie, pas le moindre souffle de vie, seulement la mort. Il n'y a pas de lumière, aucune. Pas d'amour, jamais. Pas d'affection de la part de qui que ce soit. Pas de bonté, pas de joie, pas de paix, pas de pardon, pas d'espoir. Aucune lueur d'espoir ne jaillira dans ces ténèbres opaques. Il n'y aura pas non plus, en aucun cas, à aucun moment, et d'aucune manière de recours, ni de secours possible, car tout est mort dans ce pays de la mort. En un mot commençant, c'est la solitude la plus effroyable, la plus insupportable qui soit, parce que plus rien, absolument plus rien, ne viendra jamais changer quoi que ce soit à cette situation mortellement mortelle. Car cette existence-là n'est faite que de mort. Elle est tout entière vouée à la mort, rien qu'à la mort. Et c'est là qu'elle restera au siècle des siècles, comme Dieu l'avait dit. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Jésus donc, subissant la colère de Dieu, portant le châtiment du péché, souffrant cette mort affreuse, honteuse, a été fait péché à notre place, afin d'endurer la punition que nous méritions, que je méritais, à cause de notre rébellion, de nos mauvaises œuvres, de nos fautes et de nos péchés sans nombre. C'est comme si c'était lui, le mal en personne. Il fallait qu'il soit broyé. Et il souffrit cette mort réellement, entièrement, dans toute la puissance de sa nature mauvaise, méchante, dévastatrice, destructrice, sans oublier qu'il était abandonné de Dieu, dans un éloignement concret, loin de Dieu, expérimentant cette existence de mort, toute de mort, rien que de mort, dans l'union avec Dieu son Père, afin que la justice de Dieu nous soit imputée. Quel amour, quel insondable amour, quel prix pour nous sauver. Mes chers amis, ce que je viens de dire sur la mort, la seconde mort, n'est que partiel. Car personne ne pourra jamais imaginer ni concevoir ce que Jésus a souffert lorsqu'il a été abandonné de son Dieu, pour nous sauver de l'enfer du péché. Car les hommes qui seront jetés en ce lieu le seront en tant que pécheurs, tandis que le Fils de Dieu est descendu dans la mort du péché en tant que juste, saint, innocent et pur de tout mal. De même, et voilà votre réponse, nous ne pouvons pas encore saisir la richesse de l'héritage éternel qui nous est réservé dans les cieux parce que nous ne sommes pas encore glorifiés, mais encore sur cette terre, dans notre corps mortel, limité dans nos facultés humaines à cause de notre faiblesse charnelle et pécheresse. C'est inconcevable pour nous. Mais alors, lorsque nous serons là-haut, nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous verrons Jésus face à face, parce que nous serons semblables à lui, ressuscités dans un corps glorieux, nous serons délivrés de la corruptibilité, de la mortalité, revêtus d'incorruptibilité et d'immortalité, nous verrons, nous saisirons la grandeur infinie de la gloire céleste, la splendeur du royaume de Dieu et la félicité de la maison du Père où nous serons pour 15 jours. Où nous serons pour toujours. Ce que nous pouvons comprendre, par contre, car révélé par l'Écriture, c'est que Satan le trompeur a été trompé à son tour. En effet, enflé d'orgueil, plein d'arrogance maligne, s'imaginant anéantir Dieu pour l'éternité, lorsqu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, afin de prendre sa place, Satan s'est laissé prendre à son propre jeu dangereux. Dans tous les cas, le diable s'est lourdement trompé, aveuglé par sa haine, abusé par sa folie, cruelle, impitoyable. Il est tombé dans le piège pernicieux qu'il avait tendu à Jésus. À l'exemple d'Aman, qui a été pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Ainsi se réalise la parole de l'Écriture, « Celui qui creuse une fosse, y tombe lui-même ». En réalité, j'arrive au bout. En réalité, Satan n'a fait que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Inciter les hommes à crucifier le Christ afin que Dieu puisse le charger de notre péché et la question du péché réglée une fois pour toutes, que le Seigneur puisse faire grâce aux pécheurs repentants que nous sommes. Cette journée est finie. Jésus est mort sur une croix. Les femmes qui entouraient Jésus sont tristes et elles pleurent leur bien-aimé Seigneur. Les disciples sont désemparés, accablés par le chagrin, par la disparition de leur maître qu'ils avaient appris à aimer, à suivre et à servir. La pierre a été roulée sur le sépulcre et scellée par les autorités romaines. Désormais, plus rien ne sera comme avant. L'espoir des lendemains qui chantent s'est éteint. Les cœurs sont chargés de peine, les pensées troublées par les événements récents. La troupe des disciples se réfugie dans une chambre secrète. Plus personne ne croit à un revirement de situation. Ils sont tous persuadés que Jésus ne reviendra plus et qu'ils ne le reverront plus. Ils sont dans l'expectative. Ce jour finit comme il a commencé, enveloppé dans la nuit ténébreuse du péché, où le monde entier, les Juifs et les Romains, ont vu le Fils de Dieu trahi, livré au supplice, cloué sur une croix, agonisant et expiant le péché des hommes, en mourant de la mort spirituelle, de cette mort qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, le salaire prévu et annoncé du péché. Je conclus. Mais pour ceux qui ont regardé attentivement, qui ont réfléchi sérieusement, certains événements de ce jour, en apparence si sombres, laissent présager un avenir lumineux, infiniment et éternellement plus lumineux que ce jour a été ténébreux. Et pourquoi? Parce que la croix est l'accomplissement de ce principe divin qui veut que la vie de Dieu jaillisse de la mort. D'ailleurs, c'est pour cela que Pâques vient après Vendredi Saint, ou Vendredi Saint avant Pâques. En effet, quand la mort a fait son œuvre, que le jugement est exécuté, que tout ce qui retenait l'homme dans l'esclavage du péché, qui le reliait encore au mal, au diable, a disparu dans la tombe, le miracle peut se produire. Car avez-vous déjà vu un vivant ressuscité? Bref, maintenant que l'homme adamique n'est plus, rien n'empêche dorénavant la vie de résurrection qui a englouti la mort de se manifester dans toute sa puissance, dans toute son abondance d'amour et de grâce en Jésus. Alors, à bientôt pour la suite de l'histoire du salut de l'humanité. Amen.